Il est 18h, presque 19. Radio
France Inter, le 18-20.
Nous sommes en Argentine, dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, des manifestations régulières, une grève générale demain, une Argentine qui ne sera pas en défaut de paiement, c'est ce qu'assure son président, puisque le FMI va accorder un prêt, c'est tout frais, mais le retour du FMI dans ce pays, ça veut dire aussi austérité, c'est un très mauvais souvenir. Sous les radars et Amélie Perrier avec la Belgique qui a peur de finir dans le noir, avec des lions qui disparaissent en Asie, une espèce très protégée, 18h50, le monde selon Trump et Grégory Phillips, avec les suites de l'affaire Kavanaugh notamment, une manifestation qui est en cours à Washington. On parlera aussi des frères et sœurs d'un candidat, et croyez-moi, ces familles, je vous hais. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et si l'ONU était moins inutile qu'elle en a l'air, peut-être qu'on la caricature un peu trop vite, cette institution qui ouvre ses portes aux chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui. Mais d'abord, direction l'Allemagne, d'Angela Merkel, un peu boiteuse en ce moment. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Ich habe nicht viel zu sagen, ich sage einfach nochmal danke.
On l'entend, on le sent, le sourire dans la voix d'Angela Merkel. C'est au moment de sa victoire, il y a un an, jour pour jour. Elle n'a pas dû le garder longtemps, ce sourire-là. Elle entamait à ce moment-là son quatrième mandat. Et déjà à l'époque, on se posait la question de savoir si c'était le mandat de trop ou pas. On savait que la coalition serait extrêmement compliquée. Elle a mis 6 mois à se mettre en place, cette fameuse grosse coalition. Et nous voilà un an plus tard. Bonsoir Hans Stark.
Bonsoir.
Chercheur à l'IFRI, directeur du comité d'études des relations franco-allemandes. Vous êtes professeur aussi à la Sorbonne. C'est Christian Lindner, je crois, le chef des libéraux du FDP, qui a eu cette phrase, c'était ce matin. Elle est politiquement épuisée, elle est finie, fermez les guillemets. C'est pas tendre, et en même temps, c'est pas complètement faux.
Non, c'est un monsieur qui n'est pas tendre pour les autres, sauf pour lui-même. Hein, donc, est assez imbu de sa personnalité. Nous sommes dans une situation en effet complexe. Nous avons une grande coalition avec 3 partis. La CDU, sa branche bavaroise, qui est la CSU, mais qui était vraiment un parti à part. Et puis le SPD. Et les trois
qui s'est beaucoup fait prier le SPD pour entrer dans cette coalition.
Et oui, qui est rentré en reculant. Et les 3 présidents de ces 3 partis-là sont tous affaiblis. Nahles est très contesté à l'intérieur des sociodémocrates. Monsieur Seehofer a poussé le gouvernement à 2 reprises, presque dans l'abîme. Et puis évidemment,
ce sont les Bavarois.
Ce sont les Bavarois de la CSU. Donc c'est un affaiblissement collectif.
Mais Angela Merkel, et c'est comme ça qu'on l'a décrivée, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a expliqué aussi la victoire pour un 4e mandat, c'était le sens du compromis. On se pose et on parle, c'était surtout pas de conflit ouvert. On a l'impression finalement que elle est dépassée par sa propre Allemagne, parce que même le vocabulaire a changé, la violence même du vocabulaire a changé dans ce pays.
C'est très juste. Le compromis est quelque chose qui a parfaitement réussi Angela Merkel pendant de nombreuses années, et finalement sur le plan notamment économique, les succès sont là, même s'il y a aussi des échecs. Mais globalement, c'est un pays qui connaît le plein emploi aujourd'hui, qui a sur le plan commercial, qui réussit très bien. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde très différent, beaucoup plus clivé, avec une extrême droite qui monte partout, y compris en Allemagne. Les sondages donnent ce parti d'extrême droite, l'AFD, aujourd'hui à 18%. Devant le SPD. Et dans cette configuration-là, le compromis, finalement, on le recuse. Le SPD, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, des 2 côtés, ont finalement eu le sentiment d'avoir trop sacrifié au niveau de leur profil politique pour maintenir un compromis parfois de façade, qui a bien réussi à Angela Merkel, mais qui ne correspond plus aux attentes aujourd'hui des citoyens, peut-être même européens, mais en tout cas allemands, qui aujourd'hui sont clivés et se divisent. Et c'est vraiment le résultat de l'arrivée au Parlement allemand de
l'extrême droite.
Alors,
on va y revenir. Il y a juste un épisode, moi, que j'ai trouvé marquant. Alors, il y a cette histoire de Hans-Georg Marsen, qui est l'ancien chef du renseignement, qui a eu des mots qu'on a jugés, disons, un peu trop laxistes et complaisants avec l'extrême droite. On va refaire le feuilleton très, très vite. Mais en gros, limogé, récupéré au ministère de l'Intérieur avec un salaire supérieur. Donc, levé de bouclier de l'Allemagne, et cette phrase d'Angela Merkel qui dit « J'étais trop concentrée sur le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur et pas assez sur ce qui touche les gens ». Ce que je lis, moi, c'est j'ai perdu le fil, j'ai perdu le contact, je n'entends plus l'Allemagne, en fait.
Et en fait, c'est un mea culpa qu'elle a utilisé justement pour susciter de la sympathie en disant que moi, chancelière, depuis 2005, je reconnais ouvertement de m'être trompée, de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute des gens. Et en plus, elle a utilisé le « je » dans ce discours, alors qu'en général, elle parle plutôt d'elle au pluriel, en incluant là-dedans ses ministres. C'est un collectif. Mm-hmm. Et là, elle a, à titre personnel, vraiment pris la charge de sa responsabilité dans cette affaire, finalement assez annexe en quelque sorte, mais qui a néanmoins provoqué une grave crise.
Mais du coup, je repose ma question, est-ce qu'elle a perdu le contact? Est-ce qu'elle le sent plus? Est-ce qu'elle est plus capable de comprendre ce qui se passe dans le cœur des Allemands et dans leur tête aussi, au fond?
Je pense que non. Je pense que c'est une femme, malgré tout, assez sensible. D'ailleurs, on a vu, elle a réagi assez rapidement. Mais le problème pour elle, c'est qu'aujourd'hui, elle est très contestée. Non pas par une majorité d'Allemands, mais par une très forte minorité à droite de l'échiquier politique, à droite jusqu'à l'extrême droite, et ça commence à peser sur elle, parce que ces gens-là, à tort, disent « nous sommes le peuple », et évidemment, ils ne les écoutent pas, ou ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés par elle.
Alors justement, est-ce qu'elle aurait dû faire, par exemple, est-ce qu'elle aurait dû en faire plus au moment des manifestations de Chemnitz, quand il y a eu les manifestations de nazis, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, elle devait se déplacer, j'imagine qu'elle a eu peur de prendre des crachats, finalement elle ne l'a pas fait, est-ce qu'elle aurait dû y aller? Est-ce qu'il fallait qu'elle aille au contact, Angela Merkel?
Je pense qu'elle aurait mis de l'huile sur le feu, parce qu'elle est contestée notamment en Allemagne de l'Est et aussi peut-être et surtout parce qu'elle est allemande de l'Est et parce que les Est-Allemands trouvent qu'ils n'ont pas le représentant qu'il leur faut aujourd'hui à Berlin. Ils se trouvent un peu trahis par quelqu'un qui vient de l'ex-RDA. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'elle se déplace dans n'importe quelle ville de l'ex-Allemagne de l'Est, ça provoque des huées, ça provoque finalement une aggravation sur le plan.
Mais est-ce qu'à un moment, qu'il ne faut pas aller au contact? Ou alors, ce n'est pas du tout le style Angela Merkel, par ailleurs?
Non, Mme Merkel est plutôt très réservée, plutôt un peu froide, elle n'aime pas les bains de foule, elle n'aurait pas réussi dans cet exercice de style.
Hans-Stark, quand on regarde la coalition, effectivement, vous le disiez, SPD, CDU, CSU, qui était compliquée, qui a mis 6 mois à se mettre en place, on dit aujourd'hui qu'elle est au bord de l'implosion, on le dit à peu près chaque semaine, en fait. Mais au fond, elle reste. Pourquoi elle reste? Parce que s'il y avait de nouvelles élections, ce serait pire, non? Est-ce que ce n'est pas ça la seule raison pour laquelle ça tient même d'un fil aujourd'hui?
Je pense qu'il y a 3 choses. Premièrement, s'il y avait des nouvelles élections, le résultat serait pire qu'avant. Cette dite grande coalition, il y a un an, a eu 53%.
Ça veut dire SPD dans les choux,
45%. Ils n'auraient même pas de majorité. Mm-hmm. Donc c'est un vrai risque maintenant de provoquer des élections anticipées. Donc ça ne changerait rien, au fond. Ensuite, ce n'est pas sûr qu'il y aurait une autre configuration. On a déjà essayé d'ailleurs avec la coalition dite jamaïcaine et les libéraux qui ont finalement décidé de ne pas rentrer au gouvernement, pas sûr que cette fois-ci changerait d'avis, notamment si Angela Merkel reste au pouvoir. Ça veut dire que les nouvelles élections doivent forcément passer par un changement de chancelier. Et là, la CDU n'est pas prête pour ça encore. Enfin, je termine, il y a quand même aussi une échéance qui explique un peu ces agissements depuis l'été, sont les élections bavières. Nous avons une élection très importante
octobre.
Le 14 octobre prochain, où la CSU risque d'avoir autour de 35%, alors que c'est un parti qui est habitué aux majorités absolues dans ce land. 35%, ça peut nous paraître beaucoup lorsqu'on voit l'émiettement des partis de rassemblement en Europe, mais pour la CSU, c'est un tremblement de terre politique, 35%. Et il n'est pas exclu, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend à Berlin, que dans ce cas-là, M. Seehofer, qui est pour l'instant encore chef du parti de la CSU, pourrait revoir un peu sa position, voire peut-être quitter le gouvernement, en tout cas perdre son poste de chef de la CSU. Et on aurait peut-être après un rythme de croisière un peu plus réfléchi et moins émotionnel.
S'il est dénoncé, si je puis dire, s'il doit s'en aller, les raisons, c'est quoi exactement? Est-ce que choisit-on qu'en camarade, en fait, ce gouvernement est trop centriste, tu n'arrives pas à le pousser à droite, donc va-t'en? C'est quoi les raisons?
Je pense que quelqu'un va succéder. Si Seehofer s'en va, celui qui va lui succéder n'est pas forcément plus à gauche que lui.
Ça, c'est sûr
et certain. La CSU a un profil politique qui est vraiment très à droite, mais en restant encore dans le spectre républicain, je le souligne. Mais si la CSU fait un score de 35%, quelqu'un doit porter le chapeau. Et ça ne peut pas être le nouveau ministre-président, M. Söder, qui vient d'arriver au pouvoir à Munich. Ça va être probablement, forcément, plutôt le président de la CSU qui rendra responsable de cette situation.
Alors, quand même, Hans Spark, il va y avoir ces élections-là. Donc, le 14 octobre, il va y avoir, comme partout en Europe, les élections européennes. Oui. Donc, en mai 2019, il va y avoir en août aussi d'autres élections chez vous à l'Est. Et à on l'Est. Le disait à l'instant jusqu'à quel point ça pouvait être important. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'urgence une sorte de stratégie globale à repenser finalement? Parce que tel que ça existe pour l'instant, ça ne marche pas. Et effectivement, on risque de voir une poussée et une montée de toute façon de l'extrême droite. Est-ce que c'est toute une stratégie d'alliance qu'il faut revoir?
La stratégie d'alliance, je ne vois pas comment on peut la changer parce qu'il ne peut pas y avoir une coalition entre le SPD d'un côté et la CDU, mettons avec la CSU de l'autre, si la CDU, disons, accepte maintenant une dérive vers la droite pour se débarrasser d'Angela Merkel. Dans ce cas-là, la grande coalition est condamnée, encore plus qu'elle ne l'est actuellement. Donc la CDU est obligée de gouverner au centre et Mme Merkel représente cela. Il pourrait y avoir peut-être un jour un changement de personne. Nous avons une nouvelle secrétaire générale de la CDU qui s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer, donc qui est l'étoile un peu montante de la CDU, mise en place par Angela Merkel. Donc elle a quand même montré aujourd'hui qu'elle est en train de préparer sa succession. Mais le profil de cette dame est un profil très pro-européen, libéral, centriste. Cela veut dire que la CDU ne changerait pas de cap sur le plan politique.
Au fond, c'est Angela Merkel en plus jeune. C'est simplement un rajeunissement.
Elle a choisi une dauphine qui représente finalement ce qu'elle a toujours incorporé sur le plan politique, bien entendu.
Il y a un papier, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui est fort intéressant, c'est dans Le Monde de ce soir. Et les mots ont leur sens, surtout dans un pays comme le vôtre, qui parle d'un, non pas d'un retour, mais en tout cas, il y a les mots République de Weimar qui reviennent dans la presse allemande aujourd'hui, en disant, en faisant en fait allusion, parce qu'on n'est pas dans le même contexte évidemment qu'en 1919, mais allusion à un régime faible, en gros, qui a été balayé après et qui a été balayé par l'extrême droite. Est-ce que c'est des choses qui résonnent et qui sonnent quand même dans l'oreille des Allemands, ça ou pas?
Non, je ne crois pas un instant. Parce que Weimar, c'est à la suite de 14-18,
on est d'accord,
à la suite
le traité de Versailles, etc.
Donc ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Et surtout, le système politique de Weimar était un système qui était déjà instable en soi, alors que le système politique de la République fédérale, lui, est très très stable. C'est un régime qui permet justement aux chanceliers de durer dans le temps. Donc c'est pas une question aujourd'hui de régime, on n'est pas encore là. En revanche, il faut trouver une réponse aux défis que pose l'AFD, que pose l'extrême droite dans un contexte économique, et c'est ça ce qui est contradictoire, de stabilité. Nous ne sommes pas en 1929-1930 lorsque les gens au chômage se tournent vers Hitler. Nous sommes dans une situation économiquement extraordinairement bonne, et c'est ça ce qui est assez fou dans cette histoire.
Parce que Angela Merkel paye encore aujourd'hui, et comme vous le dites effectivement, alors que les choses se sont finalement relativement bien passées et que l'économie va bien, elle paye l'entrée des migrants 2015, toujours aujourd'hui en fait, elle le boit jusqu'à la lie cette histoire.
Il n'y a pas eu en effet de consensus là-dessus. Et la fameuse phrase qu'elle avait prononcée à l'époque, « Wir schaffen das », et c'est ce qu'on lui reproche, ce côté
«
on va y arriver ». Et sans expliquer aux Allemands comment ils allaient y arriver, en réalité. C'était plutôt un « débrouillez-vous et faites vite ». Et c'est ça qui a sans doute expliqué un peu la situation, sachant qu'en Allemagne de l'Est, où il y a de plus de résistance de la part de l'extrême droite contre Angela Merkel, la part des émigrés fait 2% de la population globale. 2%, c'est rien.
On a bien compris en vous écoutant que pour l'instant, en l'état, chacun a finalement intérêt à ce que la situation reste comme elle l'est, même si elle n'est pas excellente, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'elle partirait avant la fin de son mandat, Angela Merkel?
On n'en sait rien, mais l'année 2019 sera en effet une année difficile. Vous l'avez souligné avec les élections notamment européennes et en Allemagne de l'Est, et surtout aussi le SPD va faire son auto-inspection avec une espèce de bilan à mi-parcours. Et le SPD pourrait en effet peut-être se retirer du pouvoir parce que c'est un parti qui souffre énormément de cette grande coalition, du fait d'avoir été maintenant dépassé dans les sondages par l'AFD. Donc peut-être le maillon faible dans ce gouvernement de coalition, c'est plutôt le social-démocrate, et c'est beaucoup moins la CDU qui reste pour l'instant encore derrière Angela Merkel, malgré tout.
Mais est-ce qu'elle s'accrocherait au pouvoir? Est-ce que c'est le genre à s'accrocher au pouvoir, Angela Merkel, pour pas partir sur une porte dérobée? Parce que ce serait une terrible porte dérobée si elle devait partir comme ça.
Entre s'accrocher au pouvoir et partir à la va-vite, il y a des nuances. Angela Merkel n'est pas quelqu'un qui partirait sur un coup de tête, C'est quelqu'un qui veut préparer son départ politique et elle est en train d'utiliser son quatrième mandat, peut-être le mandat de trop, mais en tout cas ce quatrième mandat justement pour préparer sa succession. Donc de toute façon, c'est son dernier mandat et il faut espérer malgré tout pour la stabilité politique qu'il va durer jusqu'en 2021.
Et vous le disiez, il y a beaucoup de rendez-vous à suivre en tout cas pour essayer d'avoir réponse à ces questions-là. Hans Stark, merci beaucoup. Chercheur à l'IFRI, directeur du comité d'études des relations franco-allemandes notamment. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Synthèse, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde en Argentine où le président appelle le FMI au secours. La crise est grave, mais les souvenirs de l'austérité, c'était il y a 20 ans, personne ne les a oubliés. Sous les radars, et Amélie Perrier en Belgique qui craint pour qu'on éteigne la lumière. Au Niger, sous une pluie torrentielle, et en Inde avec des lions menacés. Le monde selon Trump, c'est vous, Grégory Philips. Bonsoir, Grégory.
Bonsoir, Fabienne.
Dites donc, ça tangue un peu de tous les côtés chez vous ce soir, et encore pour le candidat à la Cour suprême, donc.
Oui, le candidat à la Cour suprême, le juge Kavanaugh, qui normalement doit être nommé peut-être dans les prochains jours, c'est le candidat de Trump, mais les femmes manifestent aujourd'hui à Washington pour dénoncer cette nomination. Vous savez que le juge fait l'objet de plusieurs accusations de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle.
Voilà, un nouvel hashtag, donc, et les femmes dans la rue à Washington à nouveau. On y vient dans un instant. Grégory, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Puisque l'AG de l'ONU démarre à New York, le monde est fou, Jean-Marc, ça on le sait, mais du coup, vive l'ONU alors.
Est-ce que le machin dont parlait De Gaulle sert encore à quelque chose? Tout le monde a tendance à dire non en ce moment, donc je vais essayer de répondre oui.
Eh bien écoutez, on verra ça tout à l'heure, il sera 18h55, le tour de la planète continue, il passe par Détroit avec les Temptations, My Girl. My Girl sur France Inter. Amélie Perrier est en piste, c'est sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Erasmo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Et Amélie, avec le spectre du blackout en Belgique.
Oui, l'alerte est sérieuse. Elle vient du bureau du plan. Danielle De Vogler, y est experte en énergie. Le risque, dit-elle, qu'un certain nombre de communes, un certain nombre de zones soient temporairement privées d'électricité a augmenté. C'est une option que nous devons prendre très au sérieux pour novembre, car l'approvisionnement en électricité ne sera pas toujours suffisant pour répondre à la demande. Alors en fait, aujourd'hui, seuls 2 réacteurs nucléaires sur les 7 que compte la Belgique sont en marche. En novembre, il n'en restera qu'un seul opérationnel, d'où l'envolée des prix sur le marché de gros de l'énergie. Ce soir, à 21h, l'électricité va atteindre des sommets. Les fournisseurs belges vont devoir dépenser 411 euros par mégawattheure. C'est 10 fois plus que le prix moyen l'an dernier. Écoutez, Damien Ernst, il est professeur à l'Université de Liège et spécialiste des questions énergétiques. Là, il répond à la RTBF.
C'est un prix assez exceptionnel. Après, il va redescendre vers des valeurs plus normales, mais quand même fort élevées. Par contre, ce qui est très, très inquiétant, c'est que ces pics en fait, de prix risquent en fait, de se prolonger, d'être de plus en plus fréquents dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Parce que le froid arrive. On va dire que pour un ménage moyen, il va payer entre 100 et 150 euros en plus par an par rapport à ce qu'il payait précédemment. Mais c'est un montant qui pourrait être encore plus élevé si d'aventure, en fait, les prix de l'électricité continuaient en fait, leur croissance.
Oui, plutôt inquiétant, hein. Mm-hmm. Et la pénurie pourrait se prolonger car les centrales nucléaires belges sont en mauvais état. Des fissures dans le béton des sites viennent d'être découvertes sur 4 réacteurs et 2 autres réacteurs sont également à l'arrêt pour cause de fuite.
Voilà, on est un petit peu voisins, donc merci de nous avoir mis totalement à l'aise. Quand les éléments se déchaînent, ça se passe en Afrique.
Oui, on parle souvent de sécheresse, hein, Fabienne, mais moins d'inondations. Pourtant, le continent est aussi vulnérable sur ce point. Ainsi, au Niger, depuis le début de la saison des pluies, qui s'étale de juin à octobre, 22 personnes ont été tuées, plus de 130 000 habitants ont été sinistrés. Mariama Abou Saadou vit à Zinder, la deuxième ville du pays. Elle vient de tout perdre. Écoutez-la témoigner sur RFI.
Elle a perdu tout. Elle a perdu les salons, les matelas, les lits, les tasses, les marmites.
Toutes ses affaires.
Oui, toutes ses affaires, même les habits qu'elle porte. Elle a tout perdu. Et puis, maintenant, les voleurs rentrent dans la nuit pour venir chercher leurs trucs qui sont un peu là.
Ils rentrent dans les ruines pour essayer de ramasser les affaires qui restent par terre.
Oui, par terre, oui. Les voleurs.
Alors, certains habitants partent en brousse dans leur famille, d'autres sont logés dans les écoles, même si les cours sont censés avoir repris la semaine dernière. Il y a un impact économique aussi avec plus de 8000 hectares de cultures inondées, 30 000 têtes de bétail noyées, sans parler des commerces détruits et sans parler non plus des craintes sanitaires. Les eaux stagnantes favorisent, on le sait, le paludisme et le choléra. Voilà pour le Niger. Mais au Ghana aussi, les fortes précipitations tournent au drame. Un barrage a lâché la semaine dernière et fait 34 morts. Et puis, au Maghreb, ce week-end en Tunisie, les pluies torrentielles se sont abattus sur le nord du pays et ont tué 5 personnes. L'Algérie également touchée par des inondations meurtrières à Constantine. Je vous emmène enfin dans la forêt de Guir. Vous savez où c'est la forêt de Guir ?
Pas du tout.
Je vais vous l'apprendre.
C'est Jean-Marc non plus, ça me fait plaisir.
La forêt de Guir non plus ?
Non plus.
C'est en Inde, dans l'état du Gujarat, dans le nord-ouest du pays. C'est un territoire fait de jungles tropicales, de sous-bois, de plateaux désertiques. C'est assez beau. Et c'est là où le lion d'Asie a trouvé refuge. C'est un cousin du lion d'Afrique, mais il semble bien menacé ces derniers jours. Les autorités indiennes ont lancé une enquête sur la mort de 12 lions d'Asie. Une lionne est morte après s'être attaquée à un sanglier empoisonné. 8 autres ont succombé à des...
Sanglier empoisonné ?
Ouais,
mais
ouais,
c'est
ouais.
Fou.
Et 8 autres ont succombé à des infections des poumons ou du foie. 6 lionceaux ont également péri, certains lors de combats. Alors à première vue, tout ça, ce sont des causes naturelles, mais les experts veulent rester vigilants, mener des campagnes de prévention contre les infections notamment, tant le lion d'Asie est menacé d'extinction. On estime qu'il n'en reste que 600 aujourd'hui en Inde.
Et tué par un sanglier empoisonné, moi je suis pas remise de...
Bah oui.
Qu'est-ce qu'il avait mangé ?
Bah alors ça, il faudra lui demander.
Vous reviendrez demain.
Merci. Je vais lui demander.
Amélie Perrier.
France Inter.
Doha. Harare. Jérusalem. Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
C'est en Argentine que nous emmène l'escale reportage ce soir d'Un jour dans le monde. L'Argentine en grève générale demain mardi parce que l'économie est au plus mal et que la vie des gens s'en ressent terriblement. Dévaluation, chômage, inflation, licenciement, fuite massive de capitaux, de dollars surtout. Le président Macri a demandé un prêt de 50 milliards au FMI. Il a dit d'ailleurs aujourd'hui à New York qu'il était relativement serein sur une réponse du FMI dont il ne peut pas dire à quel moment elle interviendra. Et pour freiner la montée du dollar et pour pour payer cette dette, 111% du PIB. Il le faut, ce prêt, alors que sous Christina Kirchner, qui avait le précédent mandat, cette inflation était de 40%. Bonsoir Caroline Wick.
Bonsoir.
Cette dette était de 40% du PIB. Quand on appelle au secours le FMI, Caroline, ça éveille de très mauvais souvenirs, forcément, chez les Argentins. Le FMI n'était plus intervenu depuis 2001. FMI pour les Argentins, ça veut dire austérité. Et forcément, eux savent qu'ils sont déjà dans le rouge.
Oui, exactement. La situation est préoccupante. Une inflation qui devrait s'élever à plus de 40% en fin d'année, un taux de chômage de 9,6% et une dévaluation record de 100% qui fait de l'Argentine le pays qui a le plus dévalué cette année dans le monde. Le 30 août dernier, le dollar s'est envolé et a dépassé la barre des 40 pesos. L'austérité est donc d'actualité, le temps pour les Argentins de se serrer la ceinture. Ce matin-là, sur une place de Buenos Aires, une vente directe de producteurs à consommateurs fait fureur. Des centaines de porteignes se bousculent pour acheter les légumes à très bas prix. Gladys, 45 ans, est femme de ménage et mère de deux enfants. De son caddie à roulettes bien rempli sortent des feuilles de céleri et des tiges d'oignons nouveaux.
Au mois d'août, tout a augmenté. Toute la nourriture, viande, légumes, riz, pâtes, tout ce qu'on utilise tous les jours. Jour après jour, les prix changent au supermarché. Tous les jours, ils augmentent leurs produits de 2 ou 3 pesos. Tout est hors de prix. Donc, je cherche les meilleurs prix. Parce qu'avec le loyer, je n'arrive pas à boucler mes fins de mois, sinon...
Ce marché est une aubaine pour les consommateurs, mais aussi pour les petits producteurs. Les abus des intermédiaires et la crise économique les affectent directement. Les tracteurs sont vendus en dollars et l'essence et les tarifs de l'électricité ne cessent d'augmenter. Véronica, productrice de céleri à La Plata, est membre de l'Union des travailleurs de la terre.
Aujourd'hui, on vend la cagette à céleri à la ferme à 30 pesos. Il y a deux mois, on la vendait 50, 60 pesos. On loue aussi les champs pour 10 000 pesos et la facture d'électricité dernièrement s'élève à 12 000, 15 000 pesos par mois. Les camions viennent nous acheter la marchandise et nous payent une misère. Puis, ils la vendent cher aux primeurs qui la vendent plus cher encore aux gens. C'est toute une chaîne. Mais ceux qui gagnent le moins et qui dépensent le plus, ce sont nous, les petits producteurs.
Alors Caroline, demain donc, grève générale, mais ces derniers mois, depuis l'annonce du retour du FMI, en gros, les Argentins sont sortis dans la rue à plusieurs reprises, justement pour protester, pour montrer leurs préoccupations.
Oui, toutes les semaines, une ou plusieurs manifestations ont lieu. Début septembre, je me suis rendue à une protestation contre l'administration de Macri et contre le FMI et ses exigences dans la politique économique nationale. Les gens sur la place de mai réclamaient tout simplement du pain et du travail. Parmi eux, Louis, 63 ans.
Ce n'est pas la première fois que vient le FMI. La dernière fois, c'était en 2001. Si c'est le même FMI, on est mal. Rien de bon n'est arrivé. Seulement l'austérité, plus la récession, moins le travail, la monnaie dévalue. Et après, ce sont des générations entières qui doivent rembourser à cause. Je suis là aujourd'hui parce que je réclame du travail et de la nourriture en Argentine. On traverse une situation difficile dans tout le pays. Je suis forgeron, j'ai travaillé toute ma vie. Mais j'ai perdu mon emploi et j'ai perdu du pouvoir d'achat. On n'est pas comme il y a 3-4 ans. C'est de pire en pire.
Et de plus en plus entre la hausse des prix incontrôlables et les licenciements ou les salaires qui ne sont pas ajustés au niveau de l'inflation, beaucoup d'Argentins ne parviennent pas à manger à leur faim. Paola, 27 ans, membre de l'association Barrios des Pieds, venant en aide aux plus défavorisés.
Le manque de nourriture, c'est ce qu'il y a de plus urgent. Beaucoup d'enfants aujourd'hui doivent sauter des repas parce que les parents se retrouvent au chômage et n'arrivent même plus à trouver des petits boulots. Ils mangent souvent dans des centres communautaires et à l'école. L'État est assez absent. Je crois qu'on va vers la crise et le gouvernement ne semble pas le voir. Mais les gens sont de plus en plus désespérés pour donner à manger à leurs enfants. On le voit dans les manifs, il y a de plus en plus de monde. Les gens commencent à se lasser.
vacaciones son más seguidas y que en algún punto las personas se cansan.
Et ce qui est fou, Caroline, il faut le rappeler, c'est qu'on est dans un pays qui a souvent été appelé le grenier du monde. C'est quand même un comble qu'il y ait une telle urgence alimentaire.
Oui, c'est un triste constat, en effet. La majorité des aliments produits sont exportés et le reste est vendu, souvent trop cher, pour des Argentins touchés par la crise. Un récent rapport de l'ONU affirme que 4 millions de personnes affrontent aujourd'hui une très sérieuse insécurité alimentaire, ce qui explique les files d'attente de plus en plus longues aux soupes populaires. Tous les samedis, l'église Saint-Joseph, dans le quartier de Flores, à Buenos Aires, distribue des repas. Jusqu'en juin dernier, l'église organisait 2 services par jour. Aujourd'hui, elle doit en proposer 3 pour pouvoir donner à manger aux 200 personnes qui se présentent. Samedi dernier, assis à une table ronde avec 3 copains de la rue, David, 23 ans, attend son repas.
Je dors dans la rue ou dans les rues. Je travaille près d'ici. Je surveille les voitures qui sont garées, avec mes béquilles et tout. Mais je n'ai pas le choix. Heureusement, le réfectoire peut me donner à manger à midi et le soir. Sinon, je ne pourrais pas manger tous les jours. Je gagne entre 200 et 300 pesos par jour. Ce n'est rien du tout. Un loyer pas cher vaut au moins 5000 pesos. Avec la présidente Cristina Kirchner, ça allait mieux. Il y avait plus de travail, plus d'aide pour les pauvres. Je veux que Marcy s'en aille. Il ne donne rien aux pauvres. Et tout aux riches.
Inquiétude, ras-le-bol, angoisse. Les Argentins, malheureusement habitués au cycle économique, tentent de traverser cette année difficile au mieux. Une tempête passagère, selon le président Macri, arrivée justement hier aux États-Unis afin de parvenir à un accord définitif avec le FMI, convaincu que la situation du pays s'améliorera très vite et que la crise est sous contrôle.
Caroline Vic en Argentine pour Un Jour dans le Monde. Merci Caroline, à très vite. Et la réponse officielle du FMI vis-à-vis de l'Argentine, très vite sans doute évidemment. Et on verra bien sûr ça ensemble. Direction les États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Synthès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Et Grégory, avec vous, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Tous les regards ce soir sont sur l'enquête russe et le numéro 2 du ministère de la Justice qui jette l'éponge, il s'appelle Rob Rosenstein. Celui-là même dans le New York Times disait qu'il songeait à déclencher l'article 25 sur l'inaptitude à la fonction présidentielle. On va y revenir, Grégory, ce sera tout à l'heure à 19h dans le journal de Sébastien Paour. D'abord, un autre dossier qui empoisonne en ce moment le quotidien de votre président, c'est la nomination du fameux juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Sauf que le magistrat fait donc désormais face à 2 accusations d'agression sexuelle au moins.
Oui, car une deuxième femme accuse donc le juge Kavanaugh d'agression sexuelle. Son témoignage a été publié hier par le New Yorker. Les faits présumés remontent aux années 80 et on se dit qu'avec ces nouveaux témoignages, eh bien la nomination de ce juge conservateur est de plus en plus mal partie, Fabienne. Kavanaugh, soutenu par Trump mais honni par le camp démocrate, qui redoute que son arrivée au sein de la Cour suprême ne la fasse pencher dans le camp conservateur pour de très longues années. Vous savez que ces magistrats sont nommés à vie et qu'ils sont amenés à se prononcer sur des questions essentielles telles que l'avortement, le port d'armes ou encore les libertés individuelles. Et en attendant, eh bien, les mouvements féministes appellent à manifester aujourd'hui un peu partout aux États-Unis. Tenez, écoutez, c'était il y a 2 heures environ, dans l'une des annexes du Capitole ici à Washington, 200 à 300 femmes, le poing levé au Congrès pour dire non à la nomination de Kavanaugh. Alison fait partie des manifestantes.
Cet homme ne représente pas les valeurs que moi je défends. Je ne peux pas accepter sa nomination et on doit faire tout ce qu'on peut pour l'empêcher. Évidemment que je crois ces femmes.
Voilà, donc normalement le juge Kavanaugh et au moins une de ses accusatrices doivent être entendues jeudi par le Sénat. Trump a dit tout à l'heure que ces accusations étaient extrêmement politiques. On verra si la Maison-Blanche parvient ou non à aller jusqu'au bout de ce processus de nomination.
Évidemment, on le verra ensemble. Il y a autre chose qu'on surveille évidemment, Grégory, comme le lait sur le feu, ce sont les élections à mi-mandat, 1 mois et demi, combien de jours, puisque vous comptez ?
Oui, 43 jours normalement, 43 jours.
Tic-tac, tic-tac. Vous vouliez nous parler de ce responsable politique de l'Arizona, candidat à la Chambre des représentants, sauf qu'en politique, il faut se méfier de tout le monde, y compris de sa propre famille. Racontez-nous ça.
Oui, Paul Gosar, c'est son nom, a 9 frères et sœurs. C'est un ultra-conservateur du Parti républicain, assez controversé, qui depuis 2011 est membre de la Chambre des représentants où il représente donc l'Arizona. Gosar est candidat à sa succession, sauf que 6 de ses frères et sœurs, sur 9 donc, ne partagent pas ses idées politiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'ils ont décidé de le dire à la télévision.
Paul Gosar, en tant que représentant, ne fait rien pour aider.
Paul ne travaille absolument pas pour son district.
Je pense que mon frère a trahi beaucoup des valeurs que nous partagions autour de la table de la cuisine.
Il est temps de faire quelque chose. Ça veut dire, allez voter et votez pour virer Paul.
Mais famille, je vous hais, c'est absolument terrible. Vous avez beaucoup de frères et sœurs, autant que je sache, Grégory, vous-même.
Exactement, c'est assez dingue. Et à la fin de cette publicité politique, pour être sûr qu'on ait bien compris quand même, voici le message des frères et sœurs.
My name is Tim Gosar.
David Gosar.
Grace Gosar.
Joan Gosar.
Gaston Gosar.
Jennifer Gosar.
Paul Gosar is my brother.
My brother.
And I endorse Dr. Brill.
Dr. Brill. Wholeheartedly endorse Dr. David Brill for Congress.
Voilà, nous sommes les frères et sœurs de Paul Gosar avec les prénoms cités et nous soutenons le démocrate David Brill dans cette élection. Merci les frangins.
Et vivement Thanksgiving, hein. Moi je vous le dis. Et sinon donc Donald Trump est arrivé hier à New York pour la 73e Assemblée Générale des Nations Unies. On va y venir dans un instant. Au programme, une rencontre ce soir avec Emmanuel Macron, non ?
Oui, ce sera à 18h30 ce soir à New York, en plein milieu de la nuit pour vous. On verra si la bromance, comme on l'avait qualifié, en tout cas comme certains médias américains l'avaient qualifié en avril dernier, continue ou pas. En fait, le président américain va enchaîner cet après-midi ce soir les rendez-vous avec les chefs d'État et de gouvernement. Une rencontre avec Theresa May est prévue notamment tout à l'heure. La première ministre britannique qui était l'invitée de la matinale de CBS, et j'aime bien ce moment où on lui pose cette question. Quand Trump vous dit quelque chose, est-ce que vous le croyez ? Écoutez son hésitation, c'est très court.
What do you trust him?
Well... Yes.
Voilà, et puis Theresa May se reprend en disant évidemment que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont une relation très spéciale qu'on pourra donc observer ce soir à New York, sachant que Trump, Macron et Rouhani, l'Iranien, seront à la tribune des Nations Unies demain. Grosse journée à New York aux Nations Unies demain.
Allez Grégory, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 19h chez Sébastien Paour pour parler de du numéro 2 du ministère de la Justice qui a fini par jeter l'éponge. Jean-Marc est là.
Le 18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, l'Assemblée générale de l'ONU, donc on en parle à l'instant, voilà, vient de débuter, ça va durer une semaine avec Emmanuel Macron, avec Donald Trump qui vont se rencontrer tous les deux. Le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que l'ambiance est morose, quasiment plus personne ne semble croire dans le multilatéralisme, sauf vous. Jean-Marc, et vous vous dites, mais si, l'ONU sert encore à quelque chose, c'est votre monde à l'envers du soir.
C'est très facile de dire du mal de l'ONU, c'est tout à fait dans l'air du temps, et c'est vrai, l'instance internationale paraît inefficace, voire totalement incapable de régler les grands conflits en cours, je pense à la Syrie, au Yémen, à l'Afghanistan, etc. Je vous livre les deux formules de deux diplomates français. Le premier parle d'une grande faiblesse de l'ONU, le second d'une série de vents contraires. C'est une façon pudique, diplomatique, de dire, on est tombé très bas. Le problème est simple, l'Organisation des Nations Unies repose sur le concept de multilatéralisme, vous le disiez, autrement dit chercher à régler les crises à plusieurs par le dialogue, le compromis, et ce concept est en panne, il est rejeté non seulement par Donald Trump, mais aussi par tous les nationalistes de tout poil qui se trouvent en Europe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut reprendre le sujet autrement. D'abord, l'honnêteté consiste à dire que le multilatéralisme n'a jamais été vraiment d'actualité. Disons qu'il y avait davantage jusqu'à présent une illusion de communauté internationale. Et puis ça nous arrangeait bien, nous en Europe c'était en fait pour l'essentiel une communauté de pensée et d'action au sein du monde occidental. Ça a commencé à se dégrader au moment de la guerre en Irak en 2003, et là ça a volé en éclats avec l'Amérique de Trump. Mais en réalité l'ONU, il faut le dire, n'a jamais été un grand forum de délibération mondiale, plutôt le reflet d'un subtil équilibre entre grandes puissances après la Seconde Guerre. Donc certes, on est descendu bas, c'est vrai, mais on n'a jamais été non plus très haut.
Donc même descendu bas, en tout cas, vous vous maintenez que l'ONU sert encore à quelque chose.
Oui, un fait tout simple. 133 chefs d'État et de gouvernement s'y rendent cette semaine, dont près de 100 monteront à la tribune. C'est l'une des affluences les plus fortes qu'ait jamais connue l'Assemblée Générale de l'ONU dans son existence. Et sur 195 pays dans le monde, ça fait quand même une très grosse majorité. C'est la preuve que l'ONU reste, et de loin, l'instance internationale la plus légitime, et sa portée symbolique demeure. D'ailleurs, Donald Trump, qui sera donc ce soir, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs avec Grégory Philips, ne se donnerait pas la peine sinon de faire le déplacement. Ensuite, ça demeure un lieu d'échange et de rencontre. Des dizaines de réunions bilatérales de pays à pays sont programmées cette semaine. Et surtout, il serait absurde de faire table rase de tout ce que fait ou qu'a fait l'ONU des missions de la paix. Il y en a 14 au total aujourd'hui, dont pas moins de 7 en Afrique, par exemple au Mali, en RDC, en République centrafricaine. Elles ne suffisent pas à garantir la sécurité à elles toutes seules, mais sans elles, ce serait nettement pire. Des opérations d'aide humanitaire par dizaines via le Programme alimentaire mondial, le Haut-Commissariat aux réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et puis il y a tout ce que l'ONU pourrait faire sur le climat, les migrations, l'évasion fiscale, l'armement. Et là, je vois votre sourcil qui se hausse. Que vous allez me dire que l'on bascule dans le vœu pieux, c'est ça ?
Jean-Marc, vous basculez dans le vœu pieux.
Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que l'avenir de l'ONU reste très incertain. Il dépendra de plusieurs facteurs. Je peux vous en citer deux. Le premier, c'est la capacité de l'organisation à se réformer elle-même, à intégrer les nouveaux géants, l'Inde, l'Afrique, dans le processus de décision, à limiter la gabegie financière et l'opacité de recrutement, à améliorer le fonctionnement de ses opérations de maintien de la paix, à prioriser les nouveaux enjeux, on les citait à l'instant, l'écologie, le crime organisé, les mouvements migratoires, tout cela est très ambitieux. Deuxième facteur identifiable, l'attitude de la Chine. On a bien compris que les États-Unis de Trump veulent se retirer derrière leur sac de sable, sortir du jeu international. En face, la Chine de Xi Jinping aspire au pouvoir économique. Ses projets de nouvelle route de la soie en sont l'expression la plus évidente. Mais est-ce qu'elle aspire aussi ou pas à la légitimité, au leadership moral délaissé par Washington ? Là, mystère. C'est une interrogation assez audacieuse, mais l'avenir de l'ONU dépend peut-être de la réponse à cette question. Si la Chine rêve de légitimité, elle devra sans doute en passer par l'institution internationale qui ainsi redorerait d'une certaine façon son blason. Cette année, Xi Jinping ne vient pas à New York pour l'Assemblée générale, c'est pas très bon signe. Peut-être aussi qu'il attend tout simplement son tour.